Louis Pergaud, le roman de Miro, Chien de chasse, troisième partie, chapitre 8. Trois fois de suite, il s'échappa et sans hésitation s'en vint revoir Lysée. Les trois fois, son maître s'étant aperçu presque aussitôt de sa disparition et aussi patient et aussi entêté que lui, partit sans délai le rechercher. Il arrivait à Longeverne 2 heures après le chien, et invariablement le retrouvait dans la cuisine ou le poêle de Lysée. Rendu prudent par l'expérience du premier jour et craignant les ruses de l'animal, il l'enchaînait immédiatement pour le reconduire à l'auberge où il avait remisé sa voiture. Après avoir laissé son cheval le temps de souffler un peu, de se reposer et de manger une avoine, lui-même se restaurant légèrement, il remmenait Miro, qui avait à peine eu le temps de voir le pays, et à 2 reprises consécutives n'eut même pas la chance d'apercevoir Lysée, absent du village ces jours-là. À la 3e fugue, il fut plus heureux, mais craignant la guélotte, il n'était pas venu japper sous les fenêtres. Il s'était caché aux alentours, attendant pour s'aventurer de voir son ami ou d'entendre son pas, afin d'être bien sûr qu'il se trouvait à la maison et de ne pas avoir visage de bois. Un instinct tout-puissant lui disait que malgré tout, il ne devait pas désespérer de vaincre un jour sa résistance inexplicable. Après 2 heures d'attente, sa patience fut récompensée et ce fut Lysée en personne qui sortit sur le pas de sa porte. En 4 bonds, il fut à lui et lui témoigna aussi follement qu'il put son affection et la joie qu'il avait de le retrouver enfin. Obéissant lui aussi à son cœur, sans réfléchir le moins du monde, Lysée lui rendait ses caresses et lui parlait avec amour. Lorsque M. Pitancet apparut tout à coup dans le sentier du verger, il vit toute la scène et avant même de souhaiter le bonjour au chasseur, ne put, sans une certaine aigreur, lui marquer l'ennui qu'il éprouvait à faire tant de voyages consécutifs qui n'avaient pas de raison de finir. « Vous m'aviez promis de ne pas le rattirer, » ajouta-t-il, en saisissant prudemment le chien par son collier et en l'attachant de nouveau. « Pourquoi le caressez-vous? S'il sent que vous êtes avec lui et qu'il sera bien reçu, il reviendra toujours. Il faut en finir une bonne fois. Là-bas, il est bien. » Et à tout ce qu'il lui faut. Il nous connaît. Il commence à s'attacher à la maison. Promettez-moi que si jamais il revient, vous ne le recevrez pas. Vous le gronderez et vous le renverrez en le menaçant du bâton. Vous comprenez bien que si je l'ai payé si cher, c'est pour l'avoir à moi, non pas pour qu'il revienne ici et que je fasse continuellement la navette entre les deux patelins. S'il en était ainsi, j'aimerais mieux y renoncer et que nous défassions le marché. » La guélotte, arrivant à la cuisine, avait entendu les dernières paroles de l'acheteur. Une appréhension terrible la gagna, que M. Pitancet ne redemanda les 300 francs versés, et peut-être, très légèrement, quoi qu'elle en eût dit, écornée pour le paiement de la dernière amende. Et puis elle avait eu le dessus. Elle ne voulait à aucun prix reprendre cette charogne à la maison. Ce fut elle qui fit la réponse. « Vous avez bien raison, monsieur, tout ce qu'il y a de plus raison, c'est le vôtre, et je vous l'aurais dit plus tôt sans la crainte de vous blesser, mais il vaut mieux, pour vous comme pour nous, que nous ne lui donnions plus rien à manger, et que nous ne le laissions plus entrer, parce que sans cela, malgré vos voyages et vos bons traitements qu'il ne mérite pas, il reviendra toujours. » « C'est donc entendu, conclut l'autre, et je compte sur vous. « Pour ce qui est de moi, affirma-t-elle, vous pouvez être sûr et certain d'une chose, c'est que chaque fois qu'il approchera de ma cuisine, c'est du balai que je lui donnerai au lieu de soupe. Oh, sans lui faire de mal, soyez tranquille, je sais bien à quels endroits on peut taper. » Quant à celui-ci, continua-t-elle en désignant d'un geste de mépris son époux, « c'est une vraie andouille, ça n'a pas plus de nerfs qu'un lapin, mais j'arriverai bien à lui faire entendre raison. » Lisée, à cette apostrophe, commença par prier sa femme de fermer son bec et vivement, si elle ne voulait point savoir ce que pesait son poing. Ensuite, ne voulant pas passer aux yeux d'un étranger pour un homme d'une sensibilité ridicule, malgré sa profonde douleur et son envie de garder Miro, il affirma à M. Pitancet qu'il n'aurait point à se plaindre de lui et que le chien ne trouverait plus asile dans sa maison, d'où il le repousserait sans le battre. M. Pitancet prit acte de cette déclaration. Il remercia le chasseur, dit qu'il comptait sur sa parole, sur son honnêteté, et finalement ramena Miro, lequel commençait à s'habituer à ses petits voyages et, fermant ses desseins, se préparait d'ores et déjà à recommencer à la première occasion. Cette occasion ne tarda guère. Pour le règlement d'une vieille et importante affaire, M. Pitancet fut appelé pour quelques jours à s'absenter. Il partit après avoir recommandé à sa femme de veiller soigneusement à ne pas laisser s'échapper le chien, ce qui n'empêcha nullement ce dernier de casser sa chaîne, d'enfoncer un carreau et de revenir dardard à Longeverne, où la guélotte se réjouissait déjà de ne plus le revoir. Lisée et sa femme étaient au jardin quand il arriva. Voyant son maître et ami, il n'hésita point à venir à lui malgré la présence de l'ennemi. « Revoilà encore cette sale viosse, glapit-elle en le reconnaissant. « J'espère bien cette fois que tu vas le recevoir de la belle façon, si tu n'es pas une poule mouillée comme tu le prétends. Tu sais ce que tu as promis à M. Pitancet. « Allez, oust, fous le camp, continua-t-elle en brandissant son râteau dans la direction du Miro. « Va-t'en, ajouta Lisée au chien abasourdi de cet accueil, va-t'en. » Miro, arrêté dans son élan, resta stupide devant ses injonctions. Puis, ne voulant point croire que c'était possible, il resta là, sur place, le cou tendu, semblant interroger encore et demander des précisions. « Veux-tu bien foutre ton camp ?» reprit la femme en s'élançant sur lui. Tandis que Lisée, c'était la première fois, ne faisait rien, ne disait rien pour le défendre. À quelques 50 mètres de la maison, sur le revers du coteau, Miro se retira et s'assit sans mot dire, regardant avec étonnement du côté du jardin, espérant toujours qu'un mot de Lisée mettant un terme à cette comédie le rappellerait enfin. Mais Lisée, sombre et morne, ne fit pas un geste, ne proféra pas une parole, et rentra à la cuisine sans même jeter un coup d'œil de son côté. Le soir tomba et il ne le revit pas. Alors il vint rôder autour de la maison et aboyer sous les fenêtres pour qu'on lui ouvrît. Ainsi agissait-il après les chasses et les promenades lorsqu'il trouvait porte close. « Je vais lui ouvrir, décida Lisée. On ne peut pas le laisser coucher dehors. « Je te le défends, protesta la guélotte. Je ne veux pas qu'il remette les pattes ici. Ce n'est plus ton chien. Tu n'as pas le droit de le recevoir. Ou bien tu n'es qu'un voleur. » C'était pourtant exact que le véritable maître de Miro, celui qu'il avait payé de ses deniers, ou plutôt de ses quelques billets bleus, lui avait interdit de l'accueillir désormais et qu'il avait promis de le repousser. Il baissa la tête et s'alla coucher. Mais il ne dormit point et il put entendre Miro qui aboya longtemps. Là et affamé, sans doute, il ne cessa ses appels que pour faire un tour par le village et chercher sa nourriture. Pourtant, le lendemain matin, quand la guélotte ouvrit la porte, elle le trouva couché sur la levée de grange. Elle se hâta de l'expulser en lui jetant des pierres, et le chien, s'éloignant à regret, revint se poster au milieu du coteau, à la même place que la veille, attendant Lisée, espérant toujours, et quand même, être recueilli. Dès que le chasseur sortait, il se redressait, tremblant de tous ses membres, les yeux brillants, le cou tendu, attendant qu'il regardât de son côté pour multiplier ses supplications muettes et lui dire avec tout son cœur et toute son âme « Voyons, puis-je aller près de toi ?» Mais Lisée, bien que le sachant là, ne faisait pas mine de le remarquer et le cœur serré rentrait bientôt à la cuisine, où l'accueillaient les sourires et les haussements d'épaules méprisants de sa femme. 3 jours de suite, Miro erra autour de la maison, aboyant, demandant asile, demandant à manger, rôdant la nuit par le village. Il s'acharnait, il espérait envers et malgré tout espoir. Élisée, lui aussi, vécut 3 jours d'angoisse et de souffrance atroce, répandant à peine aux gens, voisins et amis qui lui parlaient de ce chien, louaient sa fidélité et s'extasiaient sur un attachement si tenace et si singulier à leurs yeux. Monsieur Pitancet, absent du Val, n'était pas venu chercher son chien, bien que la Guélotte, qui ignorait ce détail, eût écrit dès le second jour. Elle s'inquiéta un peu au début de ne pas le voir accourir aussitôt. Puis, sa nature égoïste reprenant le dessus, elle se dit « Après tout, qu'il crève de faim ou qu'il lui arrive malheur, je m'en moque, ce n'est plus le nôtre. » Cependant, Miro ne mangeant guère que de vagues rogatons, ainsi que quelques saletés dénichées à grand-peine au hasard de ses recherches nocturnes par les fumiers et les ordures, rongé par un souci tenace, dévoré par le chagrin, maigrissait de plus en plus. Il était là, passant ses jours accroupi dans une attitude de sphinx miteux, car tant que la maison n'était pas fermée, tant que les lumières n'étaient pas éteintes, il attendait, espérant encore que son maître l'appellerait et le reprendrait. Son poil, qu'il ne lustrait plus, se hérissait, se collait, devenait sale. Il était crotté, boueux, minable, avait un air harassé, se levait à peine, craintivement, lorsque quelqu'un passait à proximité, fuyait les gosses qu'il connaissait, regardait tout le monde avec méfiance, et marchait comme rattroupé, l'échine à demi cintrée, ainsi qu'un infirme ou un petit vieux. Élisée se mangeait le sang, se disant que ce monsieur Pitancet n'était au fond qu'une brute et une sale rosse, puisqu'il avait le courage ou la lâcheté de laisser ainsi une pauvre bête si longtemps à l'abandon. D'ailleurs, pensait le braconnier, reste à savoir si maintenant Miro se laissera remettre la main au collet. Chez nous, c'était facile, mais au milieu du communal, ce sera une autre paire de manches. Si, après cette saleté-là, le monsieur compte sur moi pour la chose, il peut se fouiller. Il s'arrangera avec la vieille, puisqu'ils ont voulu manigancer l'affaire ensemble. Et je n'ai pas peur, malgré sa maigreur de squelette et sa fatigue. Le chien n'en reste pas moins un fameux trotteur. Pauvre bête, si ce n'est pas malheureux. Ah, je n'aurais jamais dû le vendre, ajoutait-il. Voyant Lisée sortir et aller au village, Miro, efflanqué, à bout de force, se leva quand même et s'approcha, résolu à faire une tentative encore et une suprême démarche. Un combat affreux se livra en l'homme. Que faire ? Le nourrir, le laisser revenir? Quelle scène nouvelle à la maison! Ce serait intenable. Et l'autre, la brute Duval, pensait-il, avait sa promesse. D'autre part, il sentit que si le chien venait jusqu'à lui, le caressait seulement, il n'aurait plus le courage de le renvoyer. Et la mort dans l'âme, de loin, sans oser regarder, il fit un geste qui lui interdisait d'approcher davantage. Miro, qui ne le quittait pas des yeux, comprit et s'arrêta. Un immense désespoir de bête, un désespoir que les humains ne peuvent pas comprendre ni concevoir, parce qu'ils ont toujours, eux, pour atténuer les leurs, des raisons que les chiens n'ont pas, le gonfla comme une voile sous l'orage. Il s'assit sur son derrière et regarda encore, regarda longuement Lisée, qui, les jambes flageolantes et le dos rond, disparaissait au coin de la rue, derrière les maisons, longtemps comme ahuri, ne semblant pas vouloir comprendre encore ni se résigner. Il resta là, stupide, à mi-chemin. Et il vit Lisée revenir. Et il se redressa de nouveau, secoué d'un frisson, ému d'une espérance. Le chasseur se redemandait ce qu'il ferait. La lutte en lui n'était pas finie. Peut-être allait-il céder à son cœur, à son sentiment, à son désir. Mais la Guélotte parut. Encore cette sale carne, hurla-t-elle en ramassant des cailloux. Et l'homme laissa faire. Miro comprit que tout était fini, qu'il n'avait plus rien à attendre, ni à espérer. et ne voulant malgré tout point retourner au Val, où il retrouverait pourtant la niche et la pâtée, ne voulant point déserter ce village qu'il connaissait, ses forêts qu'il aimait, ne pouvant se plier à d'autres habitudes, se faire à d'autres usages, il s'en alla, sombre, triste, honteux, la queue basse et l'œil sanglant, jusqu'à la corne du petit bois de la côte où il s'arrêta. Alors, il se retourna, regarda le village, et debout, sur ses quatre pattes, il se mit à hurler longuement, à hurler au perdu, à hurler au loup, à hurler à la mort, ainsi qu'il avait fait autrefois, aux heures tragiques de sa vie, comme jadis à Bémont, lorsque l'avait recueilli Narcisse, comme naguère à Longeverne, le soir où Clovis Barromé s'était tué. Et sa plainte sonna comme un glas. Et les autres chiens y répondirent, et tout le monde s'en émut. Et c'était vraiment lugubre et désespéré.